Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec le masque plage de la critique Patricia Martin qui est revenue gentiment de vacances pour participer à ce masque de la mi-août. Patricia Martin des Petits Matins du week-end de France Inter. Nelly Capriélian, bronzée, incroyablement bronzée.
Comme toujours.
Des inrecuptibles, bon retour à Paris.
Merci.
Olivia de Lamberterie, duel, qui est venue en bikini pour participer à cette émission. Et Arnaud Vivian, le multicarte, même l'été, du masque et la plume transfuge. Regard, lui.
Non, lui, ils m'ont viré.
Ah, tu as été viré de lui?
Ouais, j'étais viré de lui. Pourquoi? Je sais pas, c'était trop cher, je crois.
Tu coûtais trop cher?
Ouais, je coûtais trop cher.
Et de la toujours excellente revue Charles, on parle ce soir, oh c'est très varié, c'est très étrange d'ailleurs, le programme que je vous ai concocté, Retour à Babylone de Kenneth Anger, Carnet de route de Régis Debray, ils sont assez différents ces deux auteurs, Sorbonne plage d'Edouard Launay, Des voyages imaginaires de Manguel, et puis Le temps est assassin de Michel Bussy que j'ai inscrit à la demande de Patricia Martin, dans le courrier de la semaine. Et on parlera à la toute fin, quelques conseils quand même de la rentrée littéraire, qui arrive dans quelques jours. Dans le courrier de la semaine, Armel Lacinta a lu Les Messieurs, recueil de nouvelles de Claire Castillon à L'Olivier. Et j'ai été surprise que votre débat ne tourne qu'autour de la sexualité. Pour moi, c'est avant tout une réflexion sur la fin de l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. Isabelle Desroches de Chartres, j'ai savouré les nouvelles si cruelles de Claire Castillon sur ces jeunes filles qui en piquent pour les vieux messieurs. Paragoutant, mais édifiant. Bernard Frémont, qui habite Orléans, comme vous, chers masqués et plumés, j'ai été passionné par la grande arche de Laurence Cossé chez Gallimard, son architecte danois et son béton maudit. Maintenant, je rêverais que Madame Cossé poursuive son cycle romanesque, c'est une bonne idée, avec la pyramide de Peille et la BNF de Dominique Perrault. Pouvez-vous lui faire passer le message? Et ma prière, ben voilà, le message est passé. Hervé Oncels, lui, il nous écrit de Kulapalayam, un petit village du sud de l'Inde. Étant architecte, j'ai été fort intéressé par le livre de la Grande Arche de Laurence Cossé que vous avez critiqué dès l'émission terminée. Je me suis rendu sur le site d'Amazon pour voir s'il était disponible. Et là, j'ai été très amusé de constater que les trois livres mis en rapport sont ceux que vous avez évoqués dans la même émission. L'influence que vous exercez sur les auditeurs est donc visiblement très concrète. Et c'est tant mieux, même jusqu'en Inde. Nous avons du pouvoir. Quelques zogmas pour le 15 août. Là, c'est Cyril Marconnet qui signe Zogman. Et c'est tiré des corrections de Jonathan Franzen. Un beau zogma. Elle s'excusa et suivit Madame Roth dans le hall principal où elles se heurtèrent à une cohue de seniors et de relents gastriques. Stéphane Jaumouillet de Nantes a trouvé à la une de West France, assise de poing, l'accusé armé de deux couteaux et de désespoir. Gwenaëlle Chapon a noté cette déclaration, que moi je n'avais pas relevée, de Monsieur Stéphane Beretti, qui est président de Store et Rideau. Avec l'aide de Google, nous créons des emplois en Eure-et-Loir et des rideaux pour toute l'Europe. Enfin, à l'exception du Royaume-Uni, bien sûr. Caroline Desvaux a aimé dans Des yeux de soie de Françoise Sagan, une femme pleine de vitalité, de charme et de taches de rousseur. Et pour finir, c'est Vincent Fontaine, qui habite encore Londres, je ne sais pas pour combien de temps, et qui a trouvé dans Mort à crédit de Céline, il n'avait pour lui qu'à Bachot, ses moustaches et ses scrupules. Il nous dit même que c'est page 54 de l'édition Folio. J'adore nos auditeurs. Allez, retour à Babylone qui paraît chez Tristram dans la collection Souple, traduit par Guillaume Tonnerre. C'est le livre du sulfureux luciférien vipérin Kenneth Anger, cinéaste underground, aujourd'hui âgé de 89 ans, mais apparemment encore vert. Et il donne une suite à Hollywood Babylone, cette usine à ragots, et le mot est faible, et à Turpitude, où il est question notamment de la liaison entre Joe Kennedy et Gloria Swanson, de l'homosexualité plus connue de Clark Gable, des frasques de Chaplin, de la descente aux enfers de James Dean, deux préservatifs dont j'ignorais qu'ils existassent à l'effigie de Rudolf Valentino. Vous avez vu ça dans le livre, hein?
Oui, qui est son obsession, Rudolf Valentino.
Et à quel moment voit-on apparaître son visage?
Bah, tu vas nous le dire, dans quelques instants. Dans quelques instants.
Coquine.
Oui, ça, sur le 15 août, chez Patricia, ça a des effets toujours bizarres. De Ronald Reagan. La fin est d'une violence contre lui. Il le déteste. Bon, de cuite, de suicide, de viol, de partouze. Alors, c'est illustré de photos en noir et blanc. C'est totalement tordu. C'est, à mon avis, pas totalement indispensable. Je suis sûr que ça... Ah si, ça, j'ai adoré le télégramme que j'ai relevé, envoyé par Gloria Swanson, qui revient de France et qu'elle envoie à la Paramount. Et c'est « Prévoir ovation SVP ». Formidable, quand même, ça. Je suis sûr que tu as aimé, Nelly.
Oui, moi j'ai adoré, parce que j'adore cet univers de Hollywood, sombre, déjanté, malsain, toxique, vénéneux, etc. Mais en même temps, je pense qu'il est quand même moins bien que le premier.
Ah oui.
Le premier Hollywood, le vrai Hollywood,
le vrai.
Babylon 1, enfin, était absolument génial. C'est celui qui a créé une surprise. Apparemment, entre parenthèses, il a déjà écrit le 3 qu'il veut sortir après sa mort, parce que c'est sur l'influence de l'église de Scientologie sur Hollywood. Et apparemment, il a un peu la trouille, et il préfère que ça sorte après sa mort. Mais celui-là, je trouve, bon, il y a tout ce que tu viens de dire, mais moi, où là, j'ai vraiment été emportée, là, je trouve que c'est vraiment un morceau de littérature assez époustouflant, c'est toute la liste des suicides. Pour moi, ces pages, c'est un morceau d'anthologie. Tout d'un coup, il y a plusieurs pages, c'est une liste comme ça, presque comme un bottin, mais à chaque fois, c'est des entrées, c'est des noms de gens qui se sont suicidés, et souvent, d'ailleurs, des seconds couteaux du cinéma hollywoodien. Il y a même un chien.
Oui.
Qui s'est suicidé, une sorte de chihuahua absolument absurde qui s'est...
Mais le chihuahua est à tendance suicidaire, hein, il faut le savoir. Hein. Il fonce sous les voitures,
oui, en même temps,
souvent.
Être un chihuahua, on comprend, quoi. C'est pas une condition vraiment enviable. Voilà, j'ai adoré, là, je trouve qu'il y a vraiment une envolée, on est vraiment dans les coulisses du sombre. Ce que j'aime aussi chez Kenneth Anger, c'est qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou faux. C'est-à-dire qu'il y a une part de vrai, et je pense qu'il y a une part d'invention. Par exemple, il y a une photo de lui au début où il dit qu'il est, je crois, sur un petit cheval, il est déguisé en fée. Ça a l'air d'être une photo un peu à la Pierre et Gilles, mais de l'époque, en noir et blanc, très très féerique. Et il dit, c'est moi quand j'étais jeune, etc. Et apparemment, c'est pas du tout une photo de lui. Apparemment, c'est la
ce
photo
pas
d'une,
moi non plus,
d'une petite actrice. Donc j'aime bien aussi ce côté où on sait jamais, entre la fiction.
Tu
le
dis pas quand même que c'est une langue de pute incroyable quand même, parce que là, tu parles des suicides et tu parles...
Mais au moins, on a quand même chroniqué la méga langue de pute de Hollywood, et là, le pauvre Kenneth Anger n'avait pas rivalisé, qui était celui qui avait pompé absolument tout.
Dont j'ai oublié le nom.
Oui, dont j'ai oublié, qui était assez génial. Ouais. Là, au moins, il dit pas qu'il a couché avec eux. C'est quand même, ça reste, au fond, ça reste assez...
Mais tu le conseilles quand même.
Ouais, moi, je le conseille, bien sûr.
Patricia, t'as appris des choses, je suis.
Ah ben ça, oui, pour avoir appris des choses... Mais, d'ailleurs, je ne regarderai plus jamais les Oscars de la même manière depuis qu'on sait la main mise de la mafia dessus.
Oui, il faut expliquer pourquoi.
Ah, mais ce passage est génial.
Pas... Oui, ce passage est... Non, mais il y a plein de passages effectivement formidables, mais il y a un moment où c'est comme les gens qui... On peut tuer pour un bon mot, c'est vrai. Et après,
on le sait au Masque et la Plume depuis fort longtemps.
Oui, mais je trouve que là, parfois, c'est quand même justement sur les suicides dont tu parlais. Moi, je ne l'ai pas lu tout à fait de la même manière, parce que je trouve que précisément... Alors, en plus, c'est classé alors, par empoisonnement, par noyade, au gaz. Il y a une façon... C'est cynique, mais vraiment jusqu'à l'extrémité. Enfin, on ne peut pas être plus cynique que ça. Et moi, je trouve que parfois, franchement, c'est trop acide et qu'on se dit que ce type, il a trop adoré peut-être les films et les humains au départ pour les aimer. C'est-à-dire que c'est un éternel déçu. Et il a besoin comme ça...
Enfin, Hollywood Babylone, c'était déjà plein de...
Non, mais il le dit, lui, j'ai tellement... Enfin, il le dit d'ailleurs de lui-même, qu'il a peut-être trop attendu pour ne pas être déçu. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de Hollywood d'une manière conventionnelle. C'est évident que c'est un univers, en plus, qui est observé
arrive,
à la loupe par les gens. Moi, je préfère quand c'est...
À raconter tous les... D'abord, derrière cette espèce d'industrie qui a créé une image de rêve américain qui n'existait pas, et il montre toutes les orgies, les drôles, enfin, tout... En fait, il montre toutes les figures du mal qui entrent.
Les figures du mal, et
qui entrent
jusqu'au
père
Kennedy.
Là,
Joe Kennedy, qui, une fois qu'il a... Il a bu le bouillon avec Hollywood. Il n'y avait plus qu'un domaine vers lequel il pouvait tourner, c'était la politique. Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas inintéressant. Mais moi, ça m'a quand même mise un peu mal à l'aise.
Et le préservatif, Valentino, ça t'a plu?
Ah oui, ça m'a beaucoup plu, le préservatif, oui.
Arnaud?
Je trouve que ce Hollywood 2 est aussi bien sinon meilleur d'ailleurs que le 1. C'est parce qu'en fait il suit une idée, c'est que le 1 parlait du cinéma muet. Celui-ci approche le cinéma parlant, en fait. C'est le moment
où le cinéma... Oui, c'est vachement spécialisé, hein, parce que les moitiés des gens dont il parle, tu les connais. Enfin, moi,
oui, oui, parce
pas,
qu'il ne parle pas de... Justement, il peut parler de James Dean ou d'Hitchcock, mais il y a aussi des cas. Il y a l'histoire de ce gamin qui était une star de Disney à l'âge de 6 ans et qui va finir junkie. On retrouve son cadavre, on le jette à la fosse commune quand il en a 18. Là, c'est pas vipérin. Je trouve pas le livre vipérin du tout. Au contraire, là, c'est... De choc, et même sur James Dean, il est très doux. Si, la fin est très très belle où il dit bravo, encore bravo.
Une phrase où il dit qu'il avait un charisme exceptionnel après avoir dit qu'il avait des morpions, qu'il était.
Non, parce qu'il raconte quand même cette histoire incroyable, c'est que, en fait, les deux grands films de James Dean ont été diffusés après sa mort. Mmh. Et donc, le studio se disait, c'est pas bon pour nos affaires, ça, le type est mort, ça va jamais marcher. Et en fait, les films n'ont pas eu non plus grand succès à l'époque, mais il y a eu une espèce de retour de culte. Avec autour de James Dean, il raconte ça très très bien, mais des années plus tard. Et donc, non, je trouve que c'est une vision. Alors évidemment, par le trou de la serrure du cinéma, mais en même temps, ce qu'il raconte sur l'emprise de la mafia, effectivement, avec la cérémonie des Oscars.
Mais quand c'est la mafia, si tu veux, ça va. Enfin, il y a une espèce, quand c'est Hollywood, quand c'est une espèce d'entité. Mais là, quand il égratigne vraiment, enfin, quand il fait plus que les égratigner. D'ailleurs, il exécute des gens malgré tout.
Ah oui, bien sûr.
Alors,
oui.
Heureusement,
oui,
parce qu'ils veulent faire. Ils sont tous morts. Oui. Mais enfin, ils ont quand même, j'imagine, des descendants.
Ils ont la main mise sur le syndicat des projectionnistes, donc ils peuvent faire bloquer la mafia, peut faire bloquer avec parce qu'ils ont ils tiennent les gens qui tiennent le syndicat. Il a fallu en tuer 2 ou 3. Enfin ça on sait que la mafia est pas voilà.
Ça c'est pas un problème.
Oui, c'est pas un problème d'en tuer 2 ou 3 pour avoir le syndicat entre les mains. Et donc ils peuvent simplement couper le courant des images et la cérémonie des Oscars, c'est justement pour éviter cette emprise de la mafia. Non, je trouve ça vraiment passionnant et super léger. Et surtout, il y a un objet livre, là, qui est quand même assez...
La réalisation du livre, qui est à la fois souple, illustré...
Souple, solide. Oui. Alors, à la plage, là, moi, j'ai vu, hein, truc, ça résiste impeccablement, quoi. Au sable, à l'eau...
Mieux que le Michel Bussy.
Michel Bussy, ça va pas du tout, non, d'un point de vue. Là, je parle d'objet, hein, vraiment. Ah non, c'est un super objet, et la maquette avec les photos, c'est super. Il y a un côté trash que j'aime bien, parce que ça rend bien dans l'objet, il y a un côté trash qui est super.
Sur ton bateau, sur ton yacht, pardon, Olivia, tu l'as lu sans problème.
Il a très bien résisté à l'eau de mer. Très bien. Je trouve que c'est inégal. Parce que tu t'en prends quand même plein la figure. C'est écrit avec une morgue assez unique, je dois dire, donc qui
et
effectivement
marrante, quoi. Et c'est un bon écrivain.
En fait un objet littéraire intéressant. Après, moi, je trouve que par exemple James Dean, ça m'a pas plu. Il dit qu'il a des morpions, qu'il est crasseux.
Ce qui est pas incompatible, hein.
Oui, que quand il est au restaurant, il arrive mal habillé, qu'il jette le steak par la fenêtre. Et après, il y a une phrase pour dire qu'il avait un charisme absolument inouï. Bon, bah,
oui, mais enfin, il y avait rien de tout ça dans le livre. C'est Philippe Besson qui avait fait une espèce de biopic
que
de James Dean.
C'était un cendrier humain, qu'on l'appelait le cendrier humain parce qu'il était adepte de sadomasochisme.
Et qu'il était l'esclave de Marlon Brando. Voilà.
Mais là, je trouve que ça tourne un peu au, une espèce de résumé de vie où c'est juste voir la vie
bonne vacances.
Par son côté le plus sinistre. La partie sur Hitchcock aussi est ignoble. Alors vraiment, on peut plus jamais regarder un film de Hitchcock de la même manière.
Qu'il appelait.
Ça m'a fait rire. Il l'appelait princesse disgrâce. Bon, ça, je trouvais que c'était un bon mot. Tournage des oiseaux avec la malheureuse Tippi Hedren, qui était censé tourner avec des oiseaux mécaniques. Et puis il a trouvé que ça rendait pas
ça
bien.
Ça marchait pas bien, ouais.
Donc il a pris des vrais oiseaux, et pour corser un peu le truc, la malheureuse était attachée. Il y a une phrase où on nous dit qu'elle était attachée.
Mais si elle n'avait pas été attachée, elle n'aurait pas fait la scène, à mon
avis. Il y a un oiseau qui a failli lui dévorer un œil qui picorait ses parties. Je ne veux pas savoir ce que ça veut dire.
Ses parties.
Oui, il y a marqué l'oiseau picorait les parties de Tippi et que la pauvre a fait une dépression nerveuse.
Les parties.
Qu'elle a fait une dépression nerveuse spectaculaire. Bon, donc tout ça, je trouve que c'est trop chargé. Alors que j'aime bien quand finalement c'est des gens que tu connais pas. Parce que je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est quand il s'attarde et quand il a quand même un tout petit peu
empathie, c'est un grand mot, mais en tous les cas, de fascination pour les gens. Et moi, je ne connaissais pas du tout le garçon qui s'appelle Billy Haynes, qui était, entre autres, l'amant de Clark Gable. Et là, il y a des scènes assez belles, parce que c'était un acteur de muet, et on le faisait répéter avec un crayon pour lui apprendre à parler, à avoir une diction. Il devait dire cette phrase « Cécile de Sicile a les cils plus lisses que les lisses d'Alice ». Il n'arrive pas à le dire.
C'est donc assez là, dur, il faut dire.
Le producteur lui dit « Vous souffrez d'une certaine forme de paresse buccale ?» Et là, le gars répond « Personne ne s'en est jamais plaint ». Bon, ça, ça m'amuse plus.
Retour à Babylone, c'est donc Kenneth Anger, et c'est chez Tristram. Et on peut lire, si on en a envie, après, ou si on ne la connaît pas, Hollywood Babylone, qui est le livre précédent. Très différent, Sorbonne Plage, un livre chez Stock d'Edouard Launay qui raconte l'histoire que personnellement je ne connaissais pas, d'un étrange phalanstère scientifique. Ça se passait en Bretagne dans les années 30, très exactement dans la presqu'île de l'Arc-Ouest, entre Paimpol et Bréa. Tu connais ça bien, toi, Olivia, je suis sûr, cet endroit-là. C'est là que les plus grands profs de la Sorbonne et les plus grands savants, et qui aimaient sortir groupés, passaient leurs vacances. Il y en avait une trentaine, donc quand même quatre prix Nobel, Marie Curie, Jean Perrin, Frédéric et Irène Joliot-Curie, et on surnommait aussi Sorbonne-Plage la presqu'île atomique, à cette nuance près quand même que ces grands noms de la physique atomique croyaient totalement à la paix, à la justice sociale, au progrès humain, à la liberté. Puis voilà, l'explosion de 45 de la bombe d'Hiroshima a mis un terme à leur utopie. Et donc Launay, il raconte l'histoire de ces scientifiques, il raconte la vie quotidienne aussi en Bretagne, de ces chimistes, physiciens, mathématiciens, qui avait quand même aussi le culte du sport et le souci du corps. Oui, tu connais un peu ce coin-là, non, Olivia?
Oui, oh bah c'est un coin sublime.
Ton bateau a
du monde. Tu connais le culte du corps.
Approcher de.
Mais il ne faut pas trop approcher parce que.
Où vit Liliane Bettencourt aujourd'hui, si j'ai bien compris.
C'est vrai, la maison de Liliane Bettencourt.
Et qui n'a pas eu de prix Nobel, elle, je crois.
Non. Peut-être a-t-elle croisé Marie Curie quand elle était petite fille, Liliane Bettencourt.
Vous savez ce que son médecin a dit dans les journaux à propos de Liliane Bettencourt?
Non.
Et son médecin a dit, elle va très bien jusqu'aux épaules. Quand même.
Mais il partait d'où?
On dirait du connaissant de l'acteur, ça.
Tout des pieds.
Magnifique.
Ça a beaucoup de charme. L'endroit, moi, j'adore. Et puis, c'est un endroit avec des marins qui sont les gens que j'admire le plus au monde.
Tu aimes bien les marins?
J'adore les marins. L'idée est formidable de cette petite communauté en espadrille qui pense qu'ils vont révolutionner le monde en bien et qui est... Le livre, c'est vraiment comment, tout d'un coup, du bien, de l'idéalisme, va surgir l'horreur. Donc, je trouve que tout est formidable. Mais... Et puis, il passe pas souvent la seconde quand il écrit, je trouve. C'est un peu ennuyeux.
Moi, j'espérais un peu plus de vacances et un peu moins de compte-rendu scientifique. Tu tousses, Patricia, pendant ce temps-là, pendant qu'elle tousse.
Non, c'est vrai qu'on a, en même temps, je pense que le point de départ, c'était quand même l'horreur. C'est-à-dire, c'est l'arrière-plan, c'est ce qu'on voit, c'est l'explosion. Alors que le premier plan, c'est tous ces jeunes gens qui ont l'air si intelligents, si doux, si affectueux, avec leur marinière à rayures. Ça commence un peu comme un jeu d'enfant. Ce sont des gens très intelligents, qui pensent avec beaucoup de logique, qui sont très généreux, qui sont d'ailleurs à l'origine des idées du Front Populaire, finalement. Oui. Mais qui, quand même, il ne faut pas dérailler non plus, sur place, on ne se mélange pas aux ouvriers.
Sauf
Frédéric Joliot-Curie l'a fait un peu, mais les autres, non.
C'est un très beau portrait, quand même, de
Frédéric Joliot-Curie.
Il est magnifique.
Il est absolument magnifique. Et sans mauvais jeu de mots, c'est effectivement une bombe à retardement qui leur revient à la figure, mais dont ils ne prennent... Enfin, ce qui les frappe en un premier temps, en fait, ils sont vexés comme des poux. Ils sont horriblement malheureux parce que les Américains leur ont
piqué quand même
voilà,
le
c'est
truc.
Ça.
Oui, mais tu ne réponds pas à ce que disait Olivia, quand même, sur... C'est vrai que le livre est plus... un peu plus un traité scientifique
parce que lui-même
que le précis
a des
de vacances qu'on pouvait un peu espérer.
Et je trouve que tu les vois quand même bien les personnages. Ça m'a fait penser à une sorte de film. Vous savez ces films qu'il y a avec Loukini, Berléand, Catherine Fro. Vous voyez tous ces acteurs irréprochables comme ça qui se battraient tous pour jouer. Il y a un historien qui bégaye et en même temps qui parle très très vite.
Ah, la pique.
C'est le côté Alceste
à bicyclette. Non, c'est pas la pique. Voilà. Moi j'ai eu l'impression que c'était un peu Alceste à bicyclette. Alors après, il faudrait qu'il y ait un réalisateur qui ait un peu la pêche. Une sorte de Pascal Thomas qui sait un peu faire dévier les choses. Parce que je trouve que c'est un peu une copie très propre. Honnêtement, j'ai des scrupules à en dire un peu de mal parce que tout est bien, et puis il y a un truc qui marche pas tout à fait.
Mais il y a quand même des, il y a quand même, je trouve, des très très beaux moments, des moments très forts quand il part, parce que tu sens l'iode, oui, tu entends le bruit, oui, de la mer. Quand il y a des naufrages, il y a une espèce de silence, il y a cette scène absolument incroyable de cette mère qui est dans un tramway, elle s'appelle Eiko Taoka. Et puis tout à coup, il y a le silence se fait, les ténèbres arrivent. Et puis quand il fait à nouveau un peu jour, elle voit que son bébé qu'elle a dans les bras est couvert de débris de verre. Il la regarde, il continue à sourire, il lui tète le sein pendant des heures. Et en fait, il est totalement irradié et il meurt quelques temps plus tard. C'est une scène quand même magnifiquement décrite. Il y a quand même des très belles choses.
Hein. Arnaud,
je suis de l'avis d'Olivia. Il y a que... Non, mais je crois que Édouard Launay, qu'on connaît, qui est un très bon...
Alors, qui était avant, qui était chroniqueur à Libération.
Oui, qui a écrit sur la science, beaucoup.
Voilà, donc, mais qui a une formation scientifique,
Il raconte d'ailleurs au Palais de la Découverte comment il a eu tout à coup une sorte de révélation qu'il a...
C'est un peu un terminal D qui est passé en terminal L, quoi, donc Édouard Launay. Et du coup, il est un peu, moi je trouve, dans le livre, il est un peu le cul entre deux chaises, justement. C'est-à-dire qu'il est à la fois entre science et littérature, et il est aussi entre journalisme et écrivain, et on sent qu'il choisit pas vraiment, et il y a des très belles choses en même temps dans lui, et l'idée est magnifique. Il y a une très belle réflexion, parce que aussi, c'est aussi un navigateur, et on voit qu'il aime non seulement la Bretagne, mais aussi la navigation,
et il y a il
fait une comparaison entre science et navigation qui est très belle. Il dit, en navigation comme en science, c'est la même chose, on sait pas toujours où on va, mais il faut toujours savoir là où on est, et je trouve cette qui fonde un peu l'idée du livre. Et on sent aussi, un peu comme on l'avait vu avec le dernier roman de Jérôme Ferrari, une génération qui est travaillée vraiment, parce qu'on voit qu'il est travaillé par la question de l'atome, de la bombe atomique, d'Hiroshima et Nagasaki, exactement comme on pouvait le lire dans le livre de Jérôme Ferrari.
Petite parenthèse, il n'y a plus d'endroit comme ça où se retrouvent, je dirais par corporation, les scientifiques ou les... À une époque, il y avait ça pour les écrivains, c'était le Luberon.
Il y a maintenant des grands PDG, des choses comme ça. Tu ne penses pas que dans la maison...
Je pensais aux communautés scientifiques ou culturelles, tu vois.
Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est extraordinaire, c'est que...
Aux États-Unis, sur les campus américains, il doit y avoir ça.
Mais ce n'était pas que pendant les vacances, parce qu'à un moment donné, ils vivent tous dans le même immeuble à Paris, c'est incroyable.
Nelly.
Non, je suis complètement de l'avis d'Olivia et Arnaud. Enfin, moi, j'ai été quand même très, très déçue par ce livre, d'autant plus que c'était une excellente idée, en effet, que j'étais pas du tout au courant de cette histoire. Et d'autant plus aussi que c'est vrai que moi, j'ai toujours bien aimé Édouard Launay en journaliste. Enfin, quand il était. C'était lui qui faisait la chronique dans l'Libé.
Des petits billets d'humeur. Oui, qui était hilarant. Sur la vie littéraire.
Oui, qui était très, très drôle. Non, mais. Et là, je trouve que le problème, c'est qu'il a pas su. En effet, il est le cul entre deux chaises, comme disait Arnaud, mais pas parce qu'il est entre la science et les vacances, comme tu disais toi, Jérôme. Je pense qu'il est entre le journalisme et la littérature et qu'il n'a pas su choisir. Pour moi, cette idée, ça aurait été un merveilleux papier dans la rubrique Grand Angle de Libé. Deux pages, c'était suffisant pour ce qu'il y a à dire, finalement, pour ce qu'il a à en dire. En livre, il aurait fallu qu'il soit beaucoup plus romancier que ça, qu'on entre dans les maisons, qu'on entre dans les têtes, qu'on entre dans leur intimité, quitte à ce qu'il a.
Oui, c'est vrai qu'on n'entre pas vraiment dans le.
Et son temps à répéter les maisons, ce qui est jardins, le pitch de la quatrième de couverture, qui est de dire, ah oui, et tous ces humanistes qui avaient une utopie et qui étaient de gauche et tout ça, et ils ont accouché de la bombe atomique. Et ça se répète et ça se répète, et on patine, on fait du surplace. Et quand il ne sait plus ce qu'il va en faire, tout d'un coup, il nous parle de lui, qui arrive dans le même coin, qui découvre la maison. Il y a des descriptions de maison, il y a des descriptions de vagues, mais à un moment donné, on lui dit, mais Édouard Launay, il va bien falloir qu'il se passe quelque chose, enfin, qu'il nous dise quelque chose. Et là, on sent alors peut-être qu'il n'y a pas assez d'éléments pour qu'il en fasse quelque chose. Il aurait dû oser, je pense qu'il pouvait, il avait l'écriture et le talent pour oser. Il n'a pas osé, c'est dommage.
Je pense que sur la plage, c'est vrai que c'est moins drôle que Retour à Babylone, si on veut faire une comparaison. Hein.
Mais il écrit vraiment joliment en même temps.
Ah oui.
Sorbonne plage, absolument. C'est chez Stock et c'est signé Édouard Launay. Grand succès cet été, Patricia, pour Le Temps est assassin.
Mais ne fais pas croire aux auditeurs que c'est moi qui t'ai demandé de mettre ce livre au programme.
Mais oui, ma pauvre Patricia.
Tu m'as appelé en me disant, n'oublie pas le Bussy.
En plein milieu de la nuit, je t'ai dit, allô Jérôme, je ne peux pas décrire un coup de cœur.
Tu m'as dit, n'oublie pas le Bussy.
Elle parlait d'autre chose.
Elle parlait de la rue.
Un gros polar de 530 pages. De Michel Bussy aux Presses de la Cité, qui n'est pas un éditeur qu'on évoque souvent à la Tribune du Masque
et la Plume. Il est
étonné quand je leur ai demandé le livre, hein, d'ailleurs. Ils attendaient mon coup de fil impatiemment.
Michel Bussy, l'auteur d'Un avion sans ailes, E2LE,
quand même 800 000 exemplaires vendus. Alors, j'ai vu que sur les listes cet été des meilleures ventes, il est toujours entre Musso et Lévy. Lévy, Musso.
C'est cohérent, même.
C'est un tiercé.
Oui, mais moi je préfère Musso. Hein.
Moi je préfère Lévy.
Ça se passe en Corse. D'où d'ailleurs, j'ai appris qu'il était originaire, alors qu'il vit en Normandie.
Et il a beaucoup parlé de la Normandie, apparemment, dans ses autres livres.
Ouais. Que tu as lu, Patricia,
non, tout s'explique.
Il habite en Haute-Normandie. Enfin, l'ancienne Haute-Normandie.
Il est prof à la fac de Rouen.
Il est prof à la fac de Rouen, absolument. Et là, donc, c'est en Corse qu'il situe l'action de son roman, qui souffre du côté de Calvi par un accident de la route. Et là, on est en août 89. Une voiture quitte la corniche, tombe dans un ravin.
Ah bon?
Quatre passagers et une seule survivante.
S'il ne le dit pas 25 000 fois, déjà.
L'adolescente. Oui, mais je résume quand même pour nos auditeurs, si tu permets. C'est mon métier, contrairement à toi. Et donc, elle s'appelle Clotilde, un peu gothique, d'ailleurs, la fille. 27 ans plus tard, elle revient en Corse avec son mari et avec leur fille.
Enfant.
Tu n'as pas lu.
Oui, alors, si,
sur le lieu où ont péri ses parents et son frère. Alors, est-ce que c'était vraiment un accident? Je vous sens angoissé. Le père a-t-il freiné ou foncé dans le ravin? La voiture a-t-elle été sabotée? Et si oui, par qui? Pourquoi? Alors, dans le camping où la famille passait ses vacances, on remet à Clotilde une lettre signée de sa mère, qu'on croyait morte.
Alors là,
Patricia.
C'est pas possible.
C'est dingue.
C'est quand même bizarre.
Sapristi. Sapristi.
Et donc, elle va, Clotilde, mener l'enquête dans cette île où, je vous le rappelle quand même, c'est la Corse, le silence est d'or. Patricia.
Mais franchement, je passe mon tour. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je l'ai lu jusqu'à la page 168. C'est-à-dire, on en était au 11e jour de vacances. Et je n'en pouvais plus. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, il n'y a rien. C'est pas écrit, il y a pas de ressort, il y a pas d'intrigue. C'est pas ce que tu as dit, c'est merveilleux par rapport à la lecture du livre. Je t'assure, on t'écouterait pendant des heures en parler. Mais franchement.
Et alors qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Tu veux pas nous dire la fin? Parce qu'on n'a pas tenu jusque-là.
Je connais l'épilogue. Hein. Toi non plus, tu n'es pas allé jusqu'au.
Ah non, moi ça m'a mis. Je veux même pas savoir l'épilogue. Même déjà le début, c'est ennuyeux comme.
Non, parce que quand même, Musso, il a l'avantage d'écrire des scénarios. C'est... Au moins,
absolument.
Ça va vite.
Musso,
Lévy,
je vous l'ai proposé.
Il a l'avantage d'être complètement invraisemblable. Donc au moins, on se marre.
Il y a deux ans, l'été, il y a deux ans, je vous ai proposé un Marc Lévy pour la première fois. L'année dernière, un Guillaume Musso.
Et
je voulais qu'on essaye Bussy.
Nous avons aimé le Musso, en tout cas, Michel Crépu et moi-même.
Oui, mais enfin, Michel Crépu, il aime aussi.
Il
aime aussi les romans d'Isabelle Autissier.
Non, on n'était même pas bourrés. Non, franchement, non, mais c'était pas.
Ah bah, Isabelle Autissier, c'est mille fois mieux.
Ah oui, c'est mille fois mieux, Isabelle Autissier.
C'est la même chose.
C'est pas du tout pareil.
C'est bonne chose.
Donc, ne critique pas Isabelle Autissier.
Donc, tu veux pas aller au-delà de ces 160 pages, non? Très bien.
Mais non, non, je me veux pas.
Nelly, toi, tu t'es arrêté à quelle page?
Non, mais la page 2, enfin, je sais pas. Non, puis j'ai sauté. Non, c'est pas vrai. Je me suis arrêté à la page 50. Et quand j'ai vu que c'était exactement le pitch de quatrième de couverture qui était juste en plus long. Non, mais l'écriture.
Écrit avec les pieds.
Et après, ce que j'ai fait, ma méthode de lecture, c'est je saute toutes les 20 pages, je lis 10 pages pour voir si ça change. C'est à un moment donné.
Sinon, tu peux lire les pages de droite.
Page 301, il devient Dostoïevski. Et toujours pas. Non, mais franchement, l'écriture, c'est pas possible, parce qu'il a une écriture d'écrivain de best-seller. C'est-à-dire, il répète.
Il est prof,
sans
je
arrêt.
Vous rappelle. Oui. Il est prof.
Bah oui, mais
on n'a pas besoin de nous.
C'est pas un saut métier, Patricia.
Mais
pas du tout, non.
C'est pas un saut métier.
On va en avoir bientôt besoin.
Mais pourquoi, ça lui a pas suffi?
Justement, oui, c'est
oui,
un.
C'est vrai. Bah parce que mais... ça. Oui, mais je pense que. Mais c'est vrai que les...
Un môme de 15 ans rend une rédaction comme ça.
Vous ricanez, mais les gens adorent ça.
Ben oui, mais alors qu'est-ce qu'ils aiment là-dedans?
Ah, je ne sais pas, il faut leur demander, mais...
Non, parce qu'il n'y a même pas un suspense intense.
Non, ça c'est vrai. Bon, donc rien à ajouter,
voilà, je crois
qu'on a Olivia.
Eh ben moi, j'ai été plutôt agréablement surprise.
Voilà. On a toujours besoin d'une Olivia.
Moi, je trouve que Musso, c'est illisible, parce que c'est prétentieux. Il pense que parce qu'il situe son intrigue à Manhattan, ça fait chic et tout d'un coup, il pense qu'il est Harlan Coben. Ouais. Et je trouve que en plus, les dénouements sont toujours décevants parce que tout d'un coup, il sort un ange d'un placard.
Oui, mais ça,
où il y a toujours un truc surnaturel.
C'est ce qui nous fait marrer, Olivia. Fait...
Ah bah oui, mais du coup, moi je trouve que en tant qu'intrigue, tu restes toujours sur ta fin.
Ouais.
Je trouve que Marc Lévy, il y a des pages et des pages sur... Il mit la main sur la poignée de la porte, il appuya sur la poignée, la porte s'ouvrit, il referma la porte se referma. Enfin, des choses comme ça. Je trouve que ça m'ennuie terriblement. Et là, eh ben, j'ai trouvé que, primo, c'était pas prétentieux parce qu'il n'y a pas le côté...
Ah non, ça, c'est une chose qu'on peut dire, c'est, voilà. C'est jamais prétentieux.
C'était bien franchouillard. et bien fichu. Moi, je voulais savoir quand même qu'est-ce qui s'était passé dans cette
culture. Alors dis-nous, si elle est, dis-nous.
Ah non.
Je dis oui, pour qu'il y a un côté film du dimanche soir. Voilà. Et ben moi, le dimanche soir, je suis toujours contente de voir Camping 1, Camping 2, Camping 3. Ça me plaît. Ouais. Et bien là, je trouve que c'est un peu la même chose. D'ailleurs, on est au camping.
Oui.
Il s'est raconté assez bien comment tu fais une boum dans une.
Sauf qu'il n'y a pas Franck Dubosc. Hein.
Ben oui, mais c'est dommage, j'adore Franck Dubosc. Je suis comme.
T'es comme Eric Neuf.
Eric Neuf, j'adore Franck Dubosc. Je trouve que c'est un très bon comédien et je trouve que Camping 3 est très réussi. Oh, et bien là.
Toi aussi, t'es comme
Olivia,
Eric.
Olivia, tu es en train de muter quand tu as jeté au mois d'août.
Non.
Eric sort de ce corps.
Je trouve que le principe de faire le journal de l'adolescente, ça marche pas mal. L'adolescente, elle est insupportable. Elles sont toutes, tu dis, la fille, c'est une plaie. Mais c'est ça, les adolescents, ce sont des plaies. J'en ai eu beaucoup chez moi. Bah, bien sûr, c'est vrai. Bah, bien sûr, écoute, on le sait. Ils sont gothiques, ils ont des yeux de panda. Et ils râlent toute la journée. Toute la journée, tu leur dis, venez faire un truc. Ils disent non, on s'ennuie. Enfin, bref. Et je trouve qu'ils le racontent assez bien. Et moi, j'ai été jusqu'au bout. J'ai un tout petit peu sauté au milieu, je le confesse. Mais je trouve qu'à partir d'une intrigue totalement invraisemblable, eh ben, il donne une solution qui m'a plu. Et je ne vous le dirai pas.
Est-ce que monsieur de Lamberturie l'a lu, non?
Non, il l'a refusé.
Il l'a refusé. Arnaud?
Je les vois, parce que j'aime bien lire les remerciements. Maintenant, les auteurs, ils disent toujours
oui.
Merci.
Ah oui, ça, voilà. Mages,
et là, et donc là, il dit merci à Luc Besson et à La Gaumont. Ça, c'est bizarre, ça, quand même.
Mais
en fait,
sympa.
Quand on lit le livre, on comprend. C'est que ses avocats lui ont dit ça serait bien de dire merci à Luc Besson et à La Gaumont, parce que c'était un plagiat du Grand Bleu.
À La Gaumont, j'avais entendu. À La
Gaumont. La Gaumont. Ah, bah, ils disent merci à
plagiat du Grand Bleu.
Bien sûr. Mais vous n'avez pas vu l'histoire du type qui vit avec les dauphins, qui veut monter un truc avec les dauphins.
C'est pas l'intrigue du livre, Arnaud. Soyons sérieux.
C'est un livre sur les années 80.
Oui, c'est
un livre sur les années 80 avec le Grand Bleu, la fille qui est gothique. Alors, elle n'écoute pas Indochine parce qu'à mon avis, il ne connaît pas vraiment bien les gothiques. En fait, on s'aperçoit qu'il ne connaît pas. Mais elle a vu Édouard Romain d'Argent. Oui. C'est-à-dire qu'elle vit. C'est un grand livre sur les années 80.
Un grand livre sur les années 80.
Exactement. Regardez le Grand Bleu.
Être amoureuse de Jean-Marc Barr.
Être amoureux de Jean-Marc Barr, etc.
Si on voyait les yeux de Patricia Martin. Ouais.
Et effectivement,
les yeux mixomatosés.
C'est un mélange entre le Grand Bleu et Camping 3. C'est exactement ça, quoi. C'est marrant à lire comme ça, comme un témoignage sur les années 80 qu'il a bien connu, de toute évidence. Il a tout le répertoire culturel des années 80.
Ça
se traîne et il y a quand même des clichés invraisemblables.
Dès la première page, ça se
traîne. Mais il y a des trucs assez marrants. Le vieil Allemand qui est là dans le camping, qui fait l'histoire du camping. Ça, c'est un personnage assez marrant.
C'est pas mal, je suis d'accord.
Mais oui, hein, t'es d'accord, ouais. Le fils.
Ils ont lu tous les deux.
Le fils du patron du camping. Qui drague qui était ado en même temps que la
exactement.
Mère et qui maintenant drague la fille adolescente et la fille
dégoûtant.
C'est dégoûtant, il y a truc un peu sale là-dedans que j'aime bien. C'est une espèce de nostalgie sale des années 80, c'est Batcave, c'est poisseux.
T'es sûr que c'est Le Temps est assassin que tu as lu?
C'est
Michel Bussy
là. Et figurez-vous que moi, j'avais lu le précédent de Michel Bussy.
Oui. Ah, mais t'as une vie cachée.
J'étais payé pour le faire. Ne lâche pas ma main,
celui-là.
Je sais pas si c'était un enfant psychotique. Ça se passait en Normandie.
Ça se passait à Deauville, d'ailleurs. Ça se passait en Normandie, sauf celui-là.
Ça se passait à Deauville.
C'était un grand livre sur quoi, le précédent?
Sur les psychotiques.
La schizophrénie. Un grand livre sur la schizophrénie.
Le gars, c'est tout sauf un imbécile. Il est prof au CNRS.
Et il est très sympathique.
Mais c'est pas du tout.
Et c'est quand même un des pires écrivains, là, en ce moment.
Non,
c'est possible.
Non, si. Oh non, on a bien pire. Tu veux que je te fasse la liste?
Ah non, mais ils sont trois. T'as Lévy, t'as Musso, t'as Bussy.
Et c'est marrant, c'est que la mère, elle lit Fred Vargas. Ça, j'ai trouvé ça cool. Là, j'ai trouvé ça sympa.
Il y a des petits clins d'œil.
Il faut faire gaffe parce qu'en acheter un lit sur la plage, emmener Didi, ça vieillit.
Bonne ambiance, confraternité.
Ah oui,
écrivain de Paula, c'est sympa.
Emmener un livre, ça vieillit. Lire, ça a l'air. Ça nous donne un air.
Ça donne un air. Ça, j'ai bien aimé.
Il est un peu bête. Mais c'est vrai, quand t'as 13 ans.
Vous avez
d'ailleurs, dans Camping 3, il a toujours un livre.
Arrête avec Camping 3 maintenant, tu commences à me fatiguer avec ton Camping 3.
Il a fait du Neuf, ça suffit. Déjà,
voilà, ça va.
Éric Neuf, sort de mon corps.
Le temps est assassin, sèche aux presses de la cité. Je t'en prie.
C'est une expression.
Ah, enfin, tu réalises ce qu'elle a dit.
Ça il a du mal après. À comprendre.
On dit comme ça, c'est très naïf.
C'est donc signé Michel Bussy. Très différent. Je crois que c'est la seule émission, d'ailleurs, culturelle à la radio, où on passe comme ça directement de Bussy à Régis Debray.
C'est Régis Debray qui va être content, à mon avis. Ouais. Hein,
donc, sous le titre...
C'est un peu nostalgique aussi, poisseux.
Un peu crade. Titre très sobre, carnet de route, Gallimard réuni dans sa collection Quarto. Encore un livre souple, d'ailleurs. 50 ans de textes écrits par Debray, Régis Debray, à la première personne du singulier. C'est le critère qu'il a trouvé pour rassembler aussi bien des romans, comme La neige brûle, des pamphlets, Contre Venise, des souvenirs. Alors, il y a Les masques, et puis il y a aussi Loué et Sois nos seigneurs. On trouve le jeune normalien, qu'Althusser jugeait brillant et profond, je cite, hein, et à qui il a donné un 17 sur 20 pour une disserte sur la cruauté. On trouve évidemment le guérillero qui suit le Che en Bolivie et qui va connaître 4 années d'incarcération. On suit l'ami de Castro, le conseiller de Mitterrand. Sur la fin, c'est Les visiteurs de Julien Gracq. Tout cela augmenté de photos, de lettres, de quelques inédits. Et on trouve même sa lettre de démission, toute récente du jury Goncourt, envoyée à Bernard Pivot, où il dit qu'il est temps pour lui de se replier sur sa propre librairie, le mot de Montaigne. C'est un peu ce qu'il fait là, d'ailleurs, avec ce carnet de route, Arnaud.
Oui, c'est ce qu'il fait là. C'est une espèce d'album Pléiade, en fait. C'est pas la Pléiade du pauvre, c'est plutôt l'album Pléiade. Il y a vraiment beaucoup de photos, beaucoup de documents.
Je te sens venir. C'est-à-dire que tu viens de me sauver Michel Bussy.
Tout laisse en toi dans la vie de Régis Debray, à commencer par le début, quoi, parce que ce jeune étudiant très doué va écrire un texte qui n'est pas là, évidemment, qui n'est pas dans ce volume-là, parce que j'imagine que son auteur ne le considère pas comme littéraire, mais qui d'abord a le plus beau titre de tous les livres de Régis Debray, c'est Révolution dans la Révolution.
Parce que c'est pas la première personne.
Non, mais je sais bien. Oui.
Mais c'est le critère des textes rassemblés.
Le seul livre important de Régis Debray, c'est Révolution dans la Révolution. C'est son premier livre. Il est le Clausewitz de la guérilla sud-américaine. Et en tant que tel, donc il a 22, 23 ans, je ne sais pas quel âge, ce livre va être traduit, il va être invité par Fidel Castro, dont il va devenir un intime. Il a encore une fois 22, 23 ans, vous imaginez quand même, c'est incroyable. Et puis après, il y a l'histoire de la Bolivie. Alors là, quand même, c'est quand même aussi, là aussi...
Mais ça on l'a dans ce livre.
Ça laisse pour toi. Ah non, on l'a pas. Parce que l'interrogation...
Mais tu l'as pas lu, alors.
Mais bien sûr que je l'ai lu. L'interrogation est toujours la même. Est-ce que Régis Debray a parlé lorsqu'il a été arrêté?
C'est tout le débat.
Et il ne l'aborde pas du tout. Et la CIA à propos du Che, c'est quelques lignes assez cruelles, d'ailleurs, là, pour le coup, de Régis Debray, sur le Che. Alors que la question, elle est toujours là. Lorsque des Suédois, il y a eu un documentaire en Suède, en 2001, ils sont allés voir Régis Debray en lui disant, alors, est-ce que c'est vous qui avez parlé, ou est-ce que c'est Bustos qui vit justement en Suède aujourd'hui, l'autre qui a été arrêté en même temps que lui? Vous connaissez la réponse de Régis Debray à ces documentaristes? Il dit, c'était il y a 30 ans, j'ai oublié. Alors là, vous rigolez bien quand vous lisez ce livre, parce que là, il y a ses souvenirs de petite enfance, là, très précis, il y a tout. Et donc là, juste le seul truc qu'il a oublié, c'est ça, quoi. C'est, est-ce que c'est lui qui a parlé, parce que le Che a été arrêté après. Donc ça laisse pantois. L'autre chose qui laisse vraiment pantois, la vie de Régis Debray, c'est juste passionnant, c'est une vraie vie romanesque. L'autre chose qui laisse pantois, c'est quand même quelqu'un qui, pour devenir Thésard, a inventé sa propre science. C'est-à-dire qu'il a quand même passé... Oui, la médiologie, qui est quand même déjà en soi tout un programme. Et donc, il a quand même inventé une science pour passer sa thèse à la Sorbonne. Moi, je ne sais pas, mais ça laisse totalement pantois. La seule chose qui ne me laisse pas pantois chez Régis Debray, c'est ce qu'il écrit, et surtout la manière dont il écrit. Parce que là, moi, j'avais lu ça à l'époque, dans les années 90, « Loué soit nos seigneurs » ou « Contre Venise ». Ça tombe des mains, quoi.
Contre Venise, l'idée est un peu caricaturale, parce qu'il y a
complètement caricaturale. Venise n'est pas une ville, c'est la représentation d'une ville. On est là.
Loué soit nos seigneurs, il y a de très belles pages. Je suis pas d'accord avec toi.
Je parle de l'écriture. Non, mais il y a une vision cynique de la politique.
Je sens le règlement de compte.
Il y a pas une vision cynique, il y a un rejet, véritable rejet.
Nous sommes rencontrés dans les années 90, à cette époque-là, plusieurs fois. Ça s'est toujours très très mal passé. On n'est pas du même bois, ça c'est sûr.
Patricia.
Adoré ce livre et j'ai trouvé que c'était évidemment alors c'est des écrits qui sont beaucoup plus à chaud que ce que Lanzmann a pu faire, mais moi j'ai pris le même plaisir justement à lire Claude Lanzmann quand il a écrit.
Ah, c'était mille fois mieux.
Le lièvre de Patagonie, c'est un
chef-d'œuvre. Le lièvre de Patagonie, c'est un chef-d'œuvre absolu.
C'est un vrai livre, surtout.
Quoi, c'est pas un vrai livre ? Et ça ?
Bah, ça, c'est pas du tout un vrai livre.
Mais d'accord, mais c'est quand même une construction.
C'est un recueil de ses livres parus déjà.
Bah oui, mais qui les met quand même dans un certain ordre et qui te permet de saisir une certaine logique. D'abord, où tu vois quand même que pour lui, et c'est là, alors vraiment, un point commun avec Mengele, c'est que l'imaginaire a pour lui une importance phénoménale. Quand il dit « j'ai assez payé pour savoir que la vraie vie est celle des songes », or précisément l'image que tu as de Debray, c'est quand même celle d'un combattant, celle d'un homme qui a un fusil à l'épaule, et d'ailleurs il y a des réflexions que je trouve très justes là-dessus, sur le côté aussi absolument l'inflexibilité du combattant. C'est un homme qui a du mal à dire « je » précisément. Donc peut-être, mais quand il dit que Régis nuit à Debray, qu'il aimerait que Régis n'existe pas. Alors c'est peut-être des coquetteries, bon, soit, moi je ne l'ai pas pris comme ça.
Son adjectif préféré, c'est quand même pompeux. Ça, on le retrouve très souvent dans sa prose. Et effectivement, toujours en disant, j'espère que je ne vais pas avoir l'air pompeux en disant ça.
Eh bien oui, alors, il y a beaucoup de mélancolie.
Il est pompeux, puis il est un peu pompant aussi.
Il parle des trahisons. Moi, je ne trouve pas pompant du tout. Des trahisons, notamment effectivement politiques, des chagrins d'amour, quand il parle de ses enfants, quand il dit que ses paternels se sont suicidés moralement, Althusser a fini meurtrier, Castro tyran et Mitterrand consensuel, finalement c'est une...
On parle aussi de De Gaulle.
Oui.
On parle aussi de De Gaulle.
Ah, oui, on ne va pas parler de tout. Bon. Mais en tout cas, non, moi je trouve, et puis c'est très bien, je trouve ça très bien écrit, ce qu'il dit sur la prison aussi, enfin c'est très intériorisé, moi j'ai adoré.
Nelly.
Oui, alors moi je tiens à dire que je ne connais pas Régis
Geoffrey.
Je connais Régis Geoffrey. Non, Debray, je le connais. Enfin, voilà.
Tu connais pas quoi l'homme ou tu veux dire.
Non, mais j'ai aucun compte à régler avec lui.
Tu ne l'as jamais lu.
Je prends des précautions oratoires avant ce que je vais dire.
Avant de lui faire ça.
Non, avant ce que je vais dire. Non, d'abord, moi j'ai trouvé que c'était quand même un livre absolument grotesque. Quoi. C'est pas
grotesque.
Un livre. Ben oui, je trouve que c'est certainement pas un quarto. Comme disait Arnaud, ça vaut un catalogue qui accompagne un Pléiade. Mais c'est quand même une collection de photos avec des légendes, des petits textes. Enfin, vraiment, c'est pas.
Non, mais attends, regarde le texte, les photos, il y a quelques photos, mais il y en a quand même très peu.
Il y a quand même.
Il y a un vrai travail une volonté de scansion avec des photos, avec des textes courts, et notamment d'ailleurs une très belle lettre de Pérec.
Je parle des photos.
Très belle lettre de Pérec, là où on voit toute l'humanité de Pérec ayant donné son appartement.
Moi, ça me gêne beaucoup parce que si tu veux, quand tu lis ces textes, c'est quand même quelqu'un de Pérec qui passe son temps à dire je n'aime pas la littérature narcissique, on est dans une époque nombriliste, je n'aime pas ça. Alors il y a plein de précautions d'usage que je trouve assez hypocrite.
Ah bah il n'est pas à l'abri d'une contradiction, ça c'est sûr.
Non, mais qu'est-ce que tu je ne veux pas. Non, mais attends, moi je ne déteste pas. C'est juste, je le jugerai juste sur ce texte-là. Où il prend plein de précautions en disant je ne suis pas narcissique. Le livre est quand même un exercice de complaisance absolue. Et il n'arrête pas de fustiger. Mais à sa gloire, je suis désolée, il n'arrête pas de fustiger le selfie, Instagram, etc. Enfin, c'est un énorme compte Instagram, ce texte. Il y a toutes les photos. Avec lui, ou t'as lui avec des ridas, mais c'est pas des selfies, c'est pas des selfies que les gens postent. Ah, mais si, je suis désolée, ça s'appelle des selfies aujourd'hui. Lui avec des ridas, lui. Tu parlais de sa lettre de Pérec, t'as deux lettres, t'as aussi une lettre de Claude Simon, t'as une lettre de.
Qui est plus, alors là, qui est plus cruelle d'ailleurs, la lettre de Claude Simon.
Mais qui est quand même
où
un
il
peu.
Il nous dit, dis donc son Malraux, là, je voulais vous dire quand même que c'est un escroc de la littérature.
Oui, mais Malraux. Il dit votre teinte oreille, il y a quand même des pages absolument éblouissantes, c'est un peu à sa gloire. Et je trouve que là, il a un peu péché par vanité.
Olivia.
Alors moi, je trouve que le livre est très bien fait, contrairement à Nelly, que l'éditeur a très bien travaillé. C'est un livre à deux vitesses, avec d'un côté une sorte de roman photo, effectivement, de la vie de Régis Debray, que je connaissais pas très bien. Donc moi, je dois dire que j'ai trouvé que c'était très passionnant. Après, je ne peux pas porter de point de vue politique, mais en tous les cas, je trouve qu'on découvre un itinéraire d'un homme très antipathique, qui adore se flageller et de dire « je suis nul », etc. Mais qui, dès qu'il peut mettre la lettre d'Althusser qui lui dit « vous avez tous les dons », hop, il la publie. Il paraît qu'il s'appelle lui-même le Schtroumpf Grognon. Eh bien, il est très, très Schtroumpf Grognon, ça c'est vrai. Donc, je trouve que tout le personnage de Régis Debray, moi, ça m'a beaucoup intéressé, en tous les cas, de découvrir. Alors, après, il y a l'écrivain que, je dois dire, je connaissais fort mal. J'ai lu le premier, qui est l'histoire d'un avortement, qui est un exercice de flagellation aussi assez dingue. Après, j'ai été voir Les Masques. Et alors là, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que je trouve que c'est pas très bien écrit. C'est très démodé.
Non, c'est pas mal écrit.
C'est là, extrêmement c'est démodé.
C'est un peu surécrit. C'est un peu surécrit.
C'est ampoulé.
C'est très démodé.
Non, bah, alors,
après,
Lucie, c'est ampoulé aussi.
C'est un peu ce qui sort de tout le livre, c'est que tout ça a pris un coup de vieux déjà monumental. Que tu as l'impression que tu parles d'une époque qui est... révolu.
Mais
d'ailleurs, le texte, ce qui est très étrange, c'est que le texte sur le Tintoret, où il publie quand même le mot de Deleuze lui disant bravo pour ce texte sur le Tintoret, et puis le mot de Claude Simon, ce texte sur le Tintoret n'a aucun intérêt.
T'es content tout d'un coup sur une photo.
De toute façon, en l'ouvrant, tu savais que tu l'aimerais pas ce livre.
Bon, allez, carnet de route.
Sur les photos, il y a la petite Marceline Loridan. Moi, ça m'a fait plaisir.
Carnet de route, c'est chez Gallimard en quarto et c'est Régis Debray. J'avais aussi inscrit ses voyages imaginaires.
Ah oui.
Ah oui, mais attendez, vous êtes trop long. Ouais. Chez Lafont, en collection bouquin.
Dommage de passer
que
à côté.
Alberto Manguel, c'est que des histoires évidemment de voyages imaginaires.
C'est formidable.
Il y a l'histoire des Sévarambes au XVIIe siècle. Il y a le nouveau Gulliver, bien sûr. Il y a Voyage en Icarie d'Étienne Cabet, qui avait tenté au XIXe siècle de fonder une colonie d'Européens dans le Mississippi.
Et Charlotte Perkins Gilman, cette femme est extraordinaire.
Donnez une bonne raison de lire ce livre. Tiens, Nelly, une bonne raison.
Une bonne raison, c'est d'abord qu'à chaque fois, ça a été des utopies, ces voyages imaginaires. C'est-à-dire que c'était une façon d'incarner une sorte de double parallèle de nos sociétés en les rendant meilleures. C'était à chaque fois des politiques. C'était en fait très, 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 très plus politique qu'imaginaire. Quand on dit voyage imaginaire, on a l'impression que c'est un peu des rêves. Et je pense la raison, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qu'on ne connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas, par exemple.
L'abbé Pierre-François Guyot des Fontaines.
James 2000, qui a écrit l'étrange manuscrit trouvé dans un cylindre de cuivre et qui raconte une société où tout le monde est dépressif.
Ah oui, ils aiment que la pauvreté, l'obscurité, la mort.
Voilà, et la mort, ils vont inculter la mort.
Oui, c'est drôle.
Et je trouve ça, il a rendu.
Arnaud.
Il y avait un livre que je connaissais, que j'avais déjà lu, parce qu'il avait été publié aux éditions de La Différence. C'est le dernier, celui qui s'appelle Capillaria ou Le Pays des Femmes. C'est justement supposément Gulliver. En fait, c'est un Hongrois qui s'appelle Karinthy. Et dans la préface, Manguel explique qui était Karinthy, qui avait l'air très, très, un type très marrant, qui aurait beaucoup plu à Pérec.
C'est quoi, c'est que des femmes?
Alors, non, c'est un type, alors parce que sa femme, il est très gentil avec sa femme, c'est un Anglais. Donc sa femme lui dit, écoute, là, t'es paresseux, faut que tu travaille, donc il se met à travailler. Et puis elle lui dit, le pays est en danger, il faut que tu ailles faire la guerre. C'est une très, très gentille femme. Et donc, il fait la guerre, mais enfin, il prend une assurance-vie. Elle lui dit quand même, prends une assurance-vie avant. Et donc, il monte donc, dans un bateau. Ils sont torpillés par un sous-marin allemand. Ils tombent dans l'eau, au fond de l'eau. Et là, ils tombent sur une peuplade. Donc, ce sont des sirènes.
Ah, c'est des sirènes.
Très, très, très belles. Très, très, très belles. Elles vivent dans des tours inachevées qui sont construites par les bullocks. Et les bullocks, ce sont des tout petits hommes, en fait. Ça ressemble beaucoup à des hommes.
C'est pas des coquillages.
C'est des petits bonshommes, ça ressemble vraiment très. Alors, elles les mangent un peu comme des bullocks, c'est-à-dire qu'elles mangent leur cervelle. Bullocks.
C'est les fameux bullocks à la mayonnaise.
Elles mangent des bullocks à la mayonnaise. Et là, il y en a une très bonne espèce. Ce qu'elles disent, ces bullocks-là, ils vont pas être dans un endroit où il y a un végétal très particulier. Et elles montrent à Gulliver ce qu'est ce végétal, et c'est un exemplaire tout détrempé de Zarathoustra de Nietzsche, en fait. Ils ont des très très bonnes cervelles parce qu'ils mangent des livres. Ah oui, c'est très très, c'est juste un grand livre hiérarchique.
Dites une raison,
Charlotte
Olivia.
Perkins Gilman, qui est une écrivain géniale, qui est l'écrivain qui a le mieux décrit ce qu'est une dépression avec Sylvia Plath. Elle a écrit un livre qui avait été réédité par Phébus qui s'appelle La Séquestrée, qui était inouï. Et là, elle imagine une utopie féministe. Il y a trois gars qui démarquent dans un pays où il n'y a que des femmes. Et elle explique comment elles se sont arrangées, comment la maternité est quelque chose de sacré parce qu'elles arrivent à se reproduire entre elles et qu'on donne les enfants aux meilleurs des mères.
Ah ben, on te dira pas.
Et ça a été écrit en 1915.
Elles font venir le bullock.
C'est génial. Et lisez La Séquestrée chez Phébus. Il y avait une préface de Diane de Margerie. C'est une très, très grande auteure.
C'est aussi bien que Camping 3, t'es sûr? C'est aussi bien.
J'adore. Camping 3, je le redis.
Une raison, Patricia.
Il est aussi jouissif que subversif parce qu'en plus, on parle toujours des écrivains voyageurs, les écrivaines voyageuses.
Ah oui.
sont assez peu nombreuses. Et je trouve que, mais d'une manière générale, et l'introduction de Mengele est absolument merveilleuse, ouais, sur la représentation, ouais, sur, ouais, justement, et finalement, ouais, l'évidence des choses non vues. Et c'est peut-être ça le plus beau.
En tout cas, il y a plein d'histoires. Voilà encore un livre souple qu'on, oui, peut emporter sur la plage, c'est Voyage imaginaire, et c'est donc que tous ces textes sont rassemblés, réunis, préfacés par Alberto Manguel. Dans 4 jours, 560 nouveaux romans arrivent, dont quand même 363 français, ça c'est les chiffres de Livre Hebdo, dont 66 premiers romans, et je vous ai demandé déjà d'en conseiller rapidement un. Patricia.
De Laure Murat, Ceci n'est pas une ville, chez Flammarion. Laure Murat travaille à Los Angeles. Elle a débarqué à l'instant où elle a mis le pied sur le sol américain. Elle a adoré cette ville qui n'a rien d'aimable, en fait, et elle est vraiment tombée amoureuse de l'air, des palmiers, de l'océan et de toutes les laideurs de la ville. Et c'est une marche un peu, c'est comme un journal, en fait, et c'est son histoire par rapport à la ville. C'est un petit bijou.
Et c'est chez Flammarion. Le choix de la rentrée littéraire de... Écoute, Nelly.
Moi, j'avais tellement aimé, comme vous savez, le Eva de Simon Liberati l'année dernière, que je me suis précipitée sur California Girls, et qui raconte les meurtres qui se sont produits chez Sharon Tate, donc dont de Sharon Tate qui était enceinte en août 69. 5 membres de la famille Manson, donc téléguidés par Charles Manson, qui lui n'y était pas, et ont tué Sharon et ses amis. Et ce que je ne savais pas, c'est que quelques heures après, ils ont tué aussi un couple, et qu'avant, ils avaient tué quelqu'un. Et ils racontent 36 heures de leur vie. Et je dois dire que j'ai été complètement impressionnée par le changement de style de Simon Liberati, parce que je craignais qu'il soit un peu dans l'lyrisme et la poésie un peu sombre. D'ailleurs, il adore Kenneth Anger, voilà.
Mais là, c'est plus fait divers.
Mais enfin, là, c'est plus...
Enfin, c'est, alors là, c'est rythmé. D'ailleurs.
Il y a tous les détails, mais sans... Il fait jamais son malin sur les mœurs, parce que ça, c'est un peu le risque. Et j'ai dévoré ce livre. Et ça parle vraiment de cette décennie, les années 60 et 70 aux États-Unis, à quel point ça a été violent.
Il y aura un même livre qui va apparaître, un autre livre, Girls.
Oui, qui s'appelle Girls, en plus, oui,
voilà,
des
à table ronde,
oui.
Donc ça va être vraiment un sujet qui va revenir dans l'actualité littéraire. Olivia.
Le livre Girls est au Quai Voltaire et il est génial. Moi, j'ai choisi Leïla Slimani. Elle, c'est un deuxième roman et les deuxièmes romans sont toujours sacrifiés.
On avait dit beaucoup de bien du premier.
C'était
déjà,
très bien. Dans Le Jardin de l'Ogre, c'était une fille qui souffrait d'une addiction sexuelle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Le premier chapitre, c'est une nounou qui massacre les enfants qu'elle garde. Et le livre est d'une finesse et d'une efficacité. Leïla Slimani, elle n'a pas 30 ans et je trouve qu'elle s'impose là de manière très forte, très crédible. Et on se retrouve tous dans ce livre et vraiment, chapeau.
Enfin, on se retrouve tous dans ce livre,
si,
oui. Enfin,
parce qu'elle elle raconte...
Et dans Le Liberati.
Non, mais elle raconte les relations très étranges.
Non, mais j'ai compris.
Tu vois qu'on entretient avec la dame qui garde nos enfants.
On en parlera dans les masques de rentrée littéraire. Arnaud.
Alors, j'ai trouvé un petit bijou de 70 pages. Chez un nouvel éditeur en plus, qui s'appelle Plein Jour. Ça, le titre de ce récit, c'est un récit, ça s'appelle Dissimulons, et c'est signé de Noël Herpe, donc qui est écrivain et critique de cinéma, qui avait co-écrit la biographie de Romer avec
et qui a écrit
de
deux volumes de journal, voilà, absolument
passionnant. Et là, c'est un petit bijou sur la question de ce qu'on peut appeler la tragédie sociale, c'est-à-dire comment des êtres se retrouvent exclus par les autres pour une raison qu'on ne connaît pas très bien. C'est sous l'égide de Monsieur Hir de Simenon et aussi des célibataires de Monterland. C'est vraiment, mais c'est juste, moi je trouve ce texte absolument magnifique.
Et si vous pouvez lisez, c'est à l'Arbalète.
Oui,
les deux livres du journal de Noël Herpe, qui était critique à Positif d'ailleurs, oui, je ne sais pas s'il y a encore, et qui sont absolument passionnants. Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Bonne rentrée à tous pour ceux qui vont bientôt aller dans les librairies acheter les livres de la rentrée littéraire. Merci beaucoup Patricia Martin, Nelly Gabriel-Lyon, Olivia de Lamberterie, Arnaud Vivian pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam, et ce soir à la technique Jean-Louis Deloncle, Philippe Thibault, Mathieu Nambo Poati. La réalisation était de Didier Lagarde. Et vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est jeudi prochain, jeudi 18 août. Je vous attends nombreux à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une qui sera consacrée au film de l'été, l'autre à la rentrée littéraire. On parle donc de cinéma dans une semaine. Bonne semaine à tous, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.